d'Emmanuel Pagano, enregistré en public à Lyon avec les élèves de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Au réveil, j'entends des petites bêtes marcher sur un morceau de tissu invisible, tendu tout près de mon oreille, tendu entre lui et moi. Entre lui et moi, juste la place d'un tissu tendu comme du papier. J'ouvre les yeux, il fait presque jour. Il gratte sa barbe naissante. Les bruits minuscules s'arrêtent lorsqu'il me sourit. Sa main quitte sa joue pour venir sur la mienne.
Elle se lève tous les jours avant moi. Je ne l'entends pas. Je la sens à peine sortir du lit. Dans un demi-sommeil, je perçois ses déplacements dans l'appartement. D'abord de très loin, puis peu à peu ses mouvements, ses petits bruits du matin deviennent de plus en plus proches. Et lentement, doucement, une couche de perception après l'autre, je me réveille.
Je caresse les protections auditives qu'il a oubliées sur ma table de nuit. La cire a épousé le creux de ses oreilles. Je les prends dans ma paume. Je tiens au chaud l'empreinte de cet endroit si fragile. Je contiens son écoute. Je garde son sommeil dans ma main.
Elle ne supporte pas le moindre grain dans le lit, même dessous le drap de dessous. Elle ne peut s'endormir si sable, miettes, pollen forment un tout petit kyste au toucher. Je l'appelle ma princesse au petit pois et je vais secouer les draps à la fenêtre.
Quand il dort, il perd son visage. Tous ses traits se détendent. Il prend le visage d'un homme apaisé. À côté de moi, dans le lit, il y a quelqu'un d'autre.
Je le regarde dormir. Je me sens loin de lui pendant ces nuits d'insomnie. Je le contemple, si calme. Avec des draps autour. Je suis complètement seule à côté de cet homme qui dort. Mais il y a toujours ce moment, un moment qu'il me semble ne jamais pouvoir atteindre, vivre, et qui pourtant est inévitable. Inévitable et magnifique. Le moment de son réveil. Il sort du sommeil comme d'une peau. Il se tourne vers moi. Et se débarrasse de la vieille mue de sa nuit en me disant « Tu es réveillée ?»
Dans cette sieste, cette paresse de plein été, j'ai soif et je ne me lèverai pas. Il se redresse, sort de la chambre. Je l'entends faire couler de l'eau dans la cuisine. Il revient, les joues gonflées, retenant un rire pressant dont ses yeux déjà sont pleins. Il se penche vers moi. Il me donne à boire de bouche à bouche et de rire à rire.
La lumière concentrée dans la fenêtre, des couleurs vives inhabituelles pour un matin. On aurait dit un midi, peut-être même un après-midi. En ouvrant les yeux, j'ai eu cette sensation d'urgence, d'être en retard, d'avoir dormi trop longtemps. Il faisait jour depuis quand ? Je me suis redressé brusquement. Elle s'est réveillée en me demandant l'heure. Je lui ai répondu de ne pas s'inquiéter, de se rendormir. J'étais soulagé. Il était encore tôt. L'urgence, c'était elle. La différence des couleurs, le tournis du temps, les heures enchevêtrées. Elle était là. Elle dormait près de moi. Ça me déréglait tout.
Il est allongé sur le dos, le bras droit levé, ramené en arrière, l'avant-bras sous sa tête. Je m'installe dans le creux ouvert, l'oreille dans son aisselle. Le pouls qui y bat m'envahit, ça souffle. On dirait plus le travail des poumons que celui du cœur. On dirait la fatigue de la vague qui rencontre les galets.
Depuis que je l'ai rencontré, des éléments manœuvrent en moi. J'entends de temps en temps le déclic des pièces dans mon corps. Je ressens le souple roulement des engrenages, tout le lent et délicat travail de rouage que je ne soupçonnais même pas. Je ne sais pas quelle fraction de moi joue, ni comment elles s'entraînent les unes les autres. Je suis à l'écoute de ces rénovations dans ma carcasse soudain docile. Ça bouge, mais qu'est-ce qui bouge? Elle fait changer mon corps, le remue de fond en comble, sans violence. Elle modifie mon intérieur. Elle ajuste, garder l'ossature et la peau. Elle réagence tout dedans. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Le retrouver, à chaque fois, c'est doucement délacer les ligaments de nos corps, dégrafer nos articulations.
En glissant mon sexe entre ses seins, je cherche un battement. Je voudrais qu'elle les serre plus encore, qu'elle les referme sur moi. Et en même temps, je rêve qu'elle s'ouvre, qu'elle écarte sa poitrine des deux mains jusqu'à déboutonner son thorax, jusqu'à ce que palpite dans mon sexe tellement tout contre lui, son cœur à nu.
Il pleurait sous mon ventre, au bord de mes lèvres, et je ne savais pas comment le consoler. Je prenais ses épaules dans mes mains pour le hisser jusqu'à mon visage. J'aurais voulu lui dire quelque chose, mais il résistait. Il restait là, le front dans mes cuisses, les paupières battant à l'ouverture de mon sexe. Les larmes entraient, chaudes.
Ces clavicules sont des petites clés que je fais tourner du regard pour ouvrir son corps. Et ça marche toujours.
Elle est si petite qu'elle m'arrive à peine à la poitrine. Quand nous faisons l'amour, elle me demande « Fais-moi grandir, déplie-moi. » Quand je veux l'embrasser, je la prends et la soulève, elle ne pèse rien. Je lui dis « Monte. » Elle pose ses pieds menus sur les miens.
Lorsque je la déshabille, elle lève les bras pour m'aider. Je suis surpris par le duvet de ses aisselles. Un duvet bleu clair, presque gris, presque blanc. Je me demande de quelle planète elle vient. Je caresse longtemps ses dessous de bras doux, colorés, avant d'aborder ses cuisses et son ventre aux couleurs chair habituelles. Au matin, elle s'habille paresseusement. J'ai le temps de la regarder faire, de voir le coton peluche bleu clair de son pull qu'elle porte à même la peau.
Quand il s'habille, il a des nageoires.
Ce qui me manque le plus, ce sont les sons de notre amour, les bruits de faire l'amour et de dormir ensemble, les bruits du réveil.
Après son départ, dans la chambre surtout, son odeur est restée quelques jours. Aujourd'hui, elle est devenue si ténue qu'elle appartient sans doute à mon imagination. J'ai essayé de la préserver en dormant sur le canapé du salon. Dans la chambre, je n'ai pas changé les draps, je n'ai pas aéré. Mais à force d'y entrer pour essayer de recueillir des échantillons d'elle, j'ai dû chasser son odeur. Ce soir, je dormirai dans le lit. J'ai mal au dos, j'ai mal partout. Je ne peux plus lutter contre sa disparition. Elle sera sous les couvertures quand je m'y glisserai. Je la respirerai une dernière fois et demain, je mettrai des draps propres. J'ouvrirai la fenêtre en grand.
Personne ne voit ce que je vois lorsque je le regarde. Il m'enlace, puis se détache un peu de moi. Il écarte mon t-shirt au col et regarde mon dos par-dessus mon épaule. Je comprends qu'il regarde à l'arrêt de son geste. Il ne me caresse pas, ne m'embrasse pas. Il ne fait plus rien, le haut de mon t-shirt soulevé. Je lui demande ce qu'il y a. Il me répond. Toi.
Les policiers disaient qu'il s'agissait probablement d'une disparition volontaire. Je l'ai cherché de long, moi, si long qu'ils ont fini par faire quelques années. Et puis j'ai décidé d'arrêter. Je me suis mis à sortir de nouveau, à voir du monde. Je crois que je commençais à l'oublier. Un soir, rentré un peu plus tôt que d'habitude, j'ai allumé la télé. Je me suis à moitié endormi devant un reportage sur l'habitat alternatif. Les yourtes, les tipis, les cabanes dans les arbres, les aumes, toutes ces conneries des colons marginaux. Dans ce demi-sommeil, je l'ai vue. Elle sortait d'une hutte, toute crade. Et si belle.
Comme j'avais les mains blessées, bandées pendant plusieurs jours, il m'a fait la toilette. Jusqu'aux détails, jusqu'aux nombrils, aux plis, jusqu'au coton-tige, à la caresse peignée du sourcil.
Elle et moi, c'est une histoire d'attente depuis le début. C'est toujours moi qui attends. Je m'y suis habitué. Elle est toujours en retard. J'arrive à l'heure car je ne sais jamais de combien va être son retard. Parfois quelques minutes seulement. Parfois plus. Beaucoup. Beaucoup plus. J'arrive à notre rendez-vous et je me dis « Maintenant, le retard va commencer. » Je lis. J'ai toujours des livres pour son retard. Mais c'est plus fort que moi. Au bout de quelques chapitres, je m'inquiète déjà. Je m'inquiète pendant je ne sais combien de pages.
Quand je l'attends, je crois le voir partout. Et toutes les silhouettes lointaines sont des arrivées. Quand il ne vient pas, je crois le voir encore. Et toutes les silhouettes rapprochées sont des déceptions.
J'ai déjà une petite idée de son odeur. Et avoir une petite idée de l'odeur de l'autre, c'est être toute prête à s'y habituer.
La première chose que j'ai vue d'elle, c'est cette balafre en pleine figure. Ceux qui semblaient bien la connaître pourtant m'affirmaient qu'elle n'avait pas de cicatrice. Mais si, c'est une marque invisible, sympathique, qui se manifeste lorsqu'elle est émue. Je ne le savais pas encore, mais ce que je voyais dans l'apparition de l'éraflure, c'était son trouble à me voir. Cette cicatrice rougit quand l'émotion ne peut plus être contenue, rayant son beau visage de haut en bas. Elle dit qu'elle sent la brûlure partir du menton et l'envahir jusqu'au front. La marque rouge est encore là, de temps à autre lorsqu'elle me regarde.
Il ne va pas à la mer se baigner. mais ramasser des agates. C'est-à-dire trier, regarder, accumuler les galets, trier à nouveau, regarder encore, jusqu'à trouver le caillou rare. Contempler le rejet des vagues. Je l'ai rencontré sur la plage, à la recherche de ces pierres précieuses. J'étais partie courir dans la toute jeune lumière, celle d'avant le soleil. Dans cette clarté minimale, je le voyais vaguement s'approcher, hésiter, tenir quelque chose en main. Je me suis arrêtée près de lui en essayant, penchée, de calmer mon souffle de coureuse. Je me suis redressée. Le soleil se levait dans sa paume. Il me l'a comme désigné. Les agates reflétaient les rayons naissants. Cet éclat matinal dans sa main, je l'ai pris dans la mienne. Il était fier de sa trouvaille. Chaque fois qu'il revient à la maison avec ses trésors, je retrouve cette première lueur.
Démarrer. Et quand je suis sortie, la poussière du chemin soulevée par sa voiture était encore dans l'air. Elle m'a piqué les yeux. C'est pour ça que j'ai pleuré.
Il y a longtemps sans elle maintenant. Je commence à m'habituer à la solitude, à la petite tristesse de 7 heures du soir.
Nous étions installés sur des gradins bruyants. La troupe d'amateurs en faisait un peu trop, ou pas assez, c'était embarrassant. J'essayais de sauver la pièce en leur accordant mentalement des circonstances atténuantes. Elle était près de moi. Je l'avais à peine remarquée. Elle s'ennuyait ostensiblement, au point de perdre sa sandalette. À force de trémoussements, d'étirements de tout le corps, la sandalette est tombée sur la scène. Là, je l'ai vue. Tout le monde l'a vue. Rouge. Essayant de se faire toute petite dans son siège pliant, essayant de cacher sa confusion. Personne n'osait ramasser la petite chaussure, ni même la pousser. Elle est restée sous les feux de la rampe tout le temps du spectacle. Pendant les applaudissements gênés, j'ai couru la récupérer avant elle. Elle s'est redressée, levée, puis assise à nouveau lorsque je me suis accroupi devant sa place. J'ai pris son pied nu, son pied d'été, dans mes mains qui n'avaient pas eu le temps d'applaudir. Et je l'ai chaussée.
Tout le monde nous regarde. Gêné, il essaie d'étouffer mon rire avec sa main qui moule ma bouche. Je continue de rire dans ses doigts. Il rit à son tour, car ça le chatouille.
J'ai connu avec elle la sensation à bascule d'être presque heureux, au bord de l'ouverture. Et la certitude qui l'accompagne, ça ne durera pas.
Elle avait cette sale habitude de mettre les mains sur les vitres, même quand je venais de les faire, pour regarder au dehors. Comme si voir au-delà de la fenêtre, ça se faisait avec les doigts. Elle avait des petites mains. Elle a sans doute encore ses petites mains, taille 6,5 pour les gants, mais je ne peux pas le voir. Le savoir, si, je me doute qu'elle n'a pas changé de dimension, mais je ne peux pas le vérifier. Elle m'a quitté depuis. Depuis, je ne sais pas depuis quand. Il y a encore les traces de ses paumes et de ses phalanges sur les vitres. Elles apparaissent quand je les couvre de buée en approchant ma bouche, quand je les encourage de mon haleine. J'ai peur qu'elles s'effacent. Elles sont toujours là, ça ne fait pas longtemps qu'elle est partie. Mais les vitres sont ternes maintenant. Il faudrait les laver. Mes amis disent que je ne dois plus me laisser aller, que je dois reprendre le dessus depuis le temps, faire le ménage, les vitres, par exemple, avec toute cette pluie depuis l'an dernier et les pollens de ce printemps et la pollution de la ville. Non. Ça ne peut pas dater d'un an déjà. Il y a encore ces empreintes. Aucun de mes amis n'a de réponse à ça. Aucun ne peut expliquer pourquoi ces petites mains sont encore sur la fenêtre, malgré la poussière, malgré les soi-disant moi. Je sais qu'elle est partie il y a peu de temps. Ils me jouent des tours avec leurs histoires de pluie et de pollen et de pollution. Je souffle sur la vitre. Je la vois appuyer ses mains, regarder au dehors, et, par sécurité, quand je suis si seul chez moi, je fixe son geste avec de la laque.
Il est venu 3 fois chez moi et je l'ai aimé comme jamais je n'avais aimé. Il n'est pas revenu. Ça fait plusieurs semaines déjà, mais je ne débande pas. Je vis avec un désir de lui permanent. Tout le reste est stérile, ma jeunesse inutile, mon travail absurde. Je suis dans une vacance que rien ne divertit. Il n'est venu que 3 fois, mais c'était suffisant pour remplir tout mon espace. Maintenant, mon appartement est inhabité. Je m'assois dans un désert, le sexe dressé dans le vide.
Elle est difficile à définir, cette tristesse. Comme une poussière reprenant sans cesse toute la place dans mes pensées dès que je cesse de m'agiter. Ce n'est pas vraiment de la tristesse. Plutôt quelque chose d'oppressant qui rend la respiration inconfortable, les gestes difficiles et les après-midi interminables. Ce n'est pas une sensation franche. Elle n'est pas si terrible. Elle est même parfois supportable. Je m'y fais certains jours. Elle est juste un peu trop collante. Je vis avec elle depuis que je ne vis plus avec lui.
Il faisait chaud. Nous étions en vacances, juste lui et moi pour une fois. Nous mangions une glace en terrasse. La bretelle de ma petite robe s'est cassée net. Je l'ai retenue in extremis. Il m'a dit « Ne bouge pas ». Il s'est levé et je l'ai vu se diriger vers l'hôtel. Il est revenu très vite avec le kit de couture de la chambre. Il a rapproché sa chaise de la mienne et il a recousu ma bretelle directement sur moi, patiemment, habilement. Ses gestes étaient précis, délicats. Il faisait très attention avec l'aiguille. Il a coupé le fil avec ses dents, tout près de ma peau.
Il m'a amenée à Park Avenue, comme si j'étais une petite fille. Il voulait me faire partager des souvenirs. Je ne crois pas que ça se partage, la mémoire, l'enfance. Il me tient la main, ému, dans ce parc d'attractions daté, construit à la place d'un vieil aérodrome, sur un plateau sans herbe, au milieu de nulle part et en plein cagnard. Je ne ressens rien, je l'ai juste accompagné dans cette solitude. Le vent sable les corps, la chaleur sèche est un prétexte à pleurer tout ce Far West décrépit, abandonné au petit commerce. La musique d'ambiance ne couvre pas le vrombissement des machineries, les jeux gonflables sont démodés et brûlants, le train fantôme ne fait pas peur, pas même aux enfants. La patinoire est en téflon, la piscine n'est qu'un mirage irritant la peau. On voit encore au sol les marques pour l'atterrissage des avions. Immobilisé sous la tonnelle chichement ensemencée de l'espace pique-nique, Je pourrais tracer tant je m'ennuie, tant je vois le temps passer, les glissades perceptibles des lignes des ombres. Il s'extasie, rien n'a changé, oui, je m'en doute. Je ne sais pas quoi faire d'autre que réajuster mes seins en sueur dans mon haut de maillot. Je refuse de le suivre sur le toboggan.
Nous sommes partis pour un petit week-end à deux. Nous nous connaissions à peine. Et déjà, il m'a demandé de signer en bas des cartes postales qu'il écrivait à ses proches. Ses amis. À sa vieille maman chérie.
Ses baisers n'étaient pas des baisers, mais des poutous. Ses bisous des enfants sur la joue ou dans le cou pour jouer. Ils claquaient. Ils étaient désagréables. Il n'était pas un enfant, encore moins le mien. Il m'embrassait pourtant partout comme ça, en faisant du bruit, sans tendresse, sans désir, en jouant.
Tout ce que je ne lui ai pas donné, je ne l'ai pas gardé. Tout ce que je ne lui ai pas donné a été perdu.
J'ai fait l'inventaire de nos cadeaux. Je lui ai offert des échantillons de bois dans un coffret, une théière, une poupée, des livres. Des livres et du papier artisanal pour dessiner. Il m'a offert des chaussures, un chemisier, un petit oiseau bleu à ressort, des livres et des carnets japonais pour écrire.
Au camping, dans la tente voisine, il y avait une fille de mon âge. Nous sommes allés à la plage pendant que nos parents buvaient l'apéro. Elle s'est allongée, repliée dans le nid de la dune. Je me suis assis tout près. Elle ne bougeait pas, elle attendait. Je n'osais pas un seul geste, pour moi c'était la première fois. Le sang stupéfiait tout mon corps et au moment où j'allais me décider, oui, j'allais l'embrasser. J'ai vu le sien entre ses cuisses teinter peu à peu son maillot clair.
Tout le monde y allait en bas. Je n'avais pas de copine et j'avais envie, voilà. Bah, elle était connue dans la résidence, la locataire du rez-de-chaussée. Je crois que j'étais bien le seul à pas l'avoir essayé. Alors, j'ai fait comme tous les gars de l'immeuble. J'ai bu un bon coup pour oublier mes scrupules. Et je suis allé sonner chez elle. C'était pas si bien que ça. C'était vite fait, mal fait. Et je ne savais trop quoi lui dire après en me rhabillant. Je lui ai donné un petit baiser et je l'ai remercié. Et puis merde, ça s'est pas passé comme prévu. Elle s'est accrochée. Elle s'accrochait à moi, physiquement, désespérément. Elle pleurait. Elle me demandait de rester. Elle me disait que j'étais le seul à l'avoir embrassée. Elle savait que je l'aimais. Elle m'attendait depuis toujours. Elle s'agrippait avec une telle certitude qu'elle me faisait mal et j'ai dû forcer pour desserrer ses doigts. Elle est retombée sur le lit de tout son poids.
J'ai une drôle d'émotion à prononcer en public et en son absence les noms, prénoms de celui que j'aime. Je le fais tout le temps.
Elle est maladroite au possible. Elle s'évertue pourtant à être une bonne maîtresse de maison. Elle ne veut pas que je m'en mêle. Elle ne sait pas coudre sans se blesser, et ses reprises sont si grossières qu'elles ressemblent à des cicatrices. Je porte à mes ourlets, près des chevilles, des rappels de ses blessures aux doigts, ses tentatives saignotantes de femme au foyer.
Parce qu'elle est trop petite. Chez moi, elle ne pose jamais le pied au sol. pour ouvrir les placards, attraper des choses sur mes étagères, elle se tient toujours sur la pointe des pieds. Danseuse livrée à domicile. Parfois, ça ne suffit pas. Alors elle se perche sur des tabourets, des chaises, des tables, la baignoire, le lit. Elle escalade mon appartement en utilisant comme des mains courantes les poignées des portes, les rebords des fenêtres, les tiroirs tirés.
Si tous les hommes que j'ai aimés pouvaient recouper les informations, s'ils se connaissaient par exemple, et s'ils discutaient ensemble de moi, ils en seraient effrayés. J'espère qu'ils ne se rencontreront jamais.
J'ai préparé sa valise, comme je l'avais toujours fait pour elle. Comme si ce n'était qu'un voyage de plus. Ou plutôt deux. Deux grosses valises. Puisqu'elle partait longtemps. Puisqu'elle partait tout court. J'ai pensé à ses habits, bien sûr. Des vêtements de rechange, mais aussi à ses livres. Ses livres du moment. Ce qu'elle avait commencé. Ce qu'elle voulait lire bientôt. Ce qu'elle avait en pile sur la table de nuit. Ses affaires de toilette. Pas de serviette. Parce qu'il en a, lui. Suffisamment, sans doute. Et des médicaments? Elle m'a répondu oui, il y a ce qu'il faut chez lui. Des draps, des provisions, de la vaisselle. Évidemment, il a tout ça. Ses papiers. Un peu d'argent. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin d'argent et qu'elle reviendrait prendre le reste. Que je ne m'inquiète pas. Que j'étais fou de m'inquiéter, de lui préparer ses valises, que je n'avais pas à faire ça. Mais j'y tenais. Je l'avais toujours fait.
Nous nous sommes fâchés. Un peu plus qu'à l'ordinaire. Je suis sortie, je marche vite pour essayer de me calmer. Je porte une veste en velours et mes bras frottent contre ma poitrine. Le velours sur le velours, ça fait un maigre grincement comme une vibration de portable. Je crois qu'il m'appelle à chaque pas.
Personne ne voit ce que je vois lorsque je le regarde.
Nous nous étions disputés dès la rue et encore dans la montée d'escalier. J'essayais de lui expliquer quelque chose qui n'était pas facile à dire. Il a ouvert son appartement, puis l'a refermé brutalement avant que je n'entre, me laissant sur le palier. Moi, et mes mots guillotinés par la porte claquée.
Je n'ai fait qu'observer, à la dérobée, l'homme d'à côté de ma vie.
Elle me parle. Elle m'aide de mots et de regards. Je n'arrive pas à lui répondre. Alors je lui mens. J'ai besoin d'elle pour devenir celui que je dois devenir. Mais je ne suis pas sûr de l'aimer. C'est bien plus dur que ce que j'imaginais. Je suis souvent tenté d'arrêter, mais je la vois me sourire. Et je ne sais plus très bien. Je voudrais qu'elle m'apprenne à ne plus mentir. Mais quand je ne mentirai plus, je ne pourrai plus lui dire que je l'aime.
Ce que je préfère dans nos promenades, c'est les moments d'escalade, où mon corps est trop étroit, trop court, où je dois grimper, sauter. Il me tend la main. Il ouvre les bras pour me recevoir.
Elle habite une maison au bord de la mer, au bout d'une route inondable à marée haute. Deux fois par jour, la nature ferme ses portes. Elle fait disparaître la route. Je ne peux venir la voir qu'à marée basse.
Je l'ai accompagné à la gare. C'était enfin fini. Je ne l'aimais plus. Je croyais être soulagée. Dans ma rue au retour, j'ai trouvé une fille en pleurs au téléphone. Elle disait à je ne sais qui qu'elle l'aimait encore. Elle ne bougeait plus de là, appuyée près de la porte de mon immeuble. Je suis rentrée chez moi, au 4e étage. Il faisait chaud. J'ai ouvert les fenêtres en grand pour faire du courant d'air. Les mots douloureux de la fille au téléphone montaient et entraient dans ma cuisine. Elle vivait la rupture en même temps que moi, sauf qu'elle pleurait, sauf qu'elle ne voulait pas. Je l'ai écoutée jusqu'à pleurer moi aussi. Jusqu'à moi aussi l'aimer encore.
Je la croise tous les soirs dans le grand escalier qui relie la ville basse à la ville haute. Cet escalier qui n'en finit pas et que je maudissais pour ça. Mais depuis qu'elle le descend tous les soirs, au moment où moi je le monte, je n'attends que ça toute la journée. L'heure de l'escalier. Je ne traîne plus jamais au travail comme la solitude m'en avait donné l'habitude. Elle aussi. Elle est toujours à l'heure. Parfois essoufflée, échevelée et encore plus belle. Et je ne sais pas si elle s'est dépêchée pour ne pas me manquer ou si elle a eu une dure journée.
Elle était au téléphone dans la rue. Elle marchait lentement, avec maladresse, comme sous une petite ivresse. Elle était distraite et triste à cause de sa conversation. Une conversation difficile, éprouvante. Elle pleurait maintenant. Elle était en train de rompre. Je l'ai suivie. Je l'ai écoutée. Elle ne s'est aperçue de rien. Tout occupée qu'elle était à quitter cet homme invisible qu'elle disait pourtant aimer encore. Quand elle a raccroché, je lui ai proposé un paquet de mouchoirs.
Il m'a séduite en me consolant d'une blessure que je croyais disparue. J'ai su plus tard qu'il s'approchait toujours ainsi des femmes. Il cherche la faille, la trouve, l'entr'ouvre et fait mine de la colmater. En réalité, il s'engouffre dans la brèche et l'élargit.
Il était adossé au mur. Son ombre se cassait au bord du trottoir. J'ai marché dedans.
Il est assis en face de moi dans le tram. Casque audio sur les oreilles, il dessine. Il tient plusieurs crayons de couleur dans une même main, réunis en bouquet. Sourd à l'extérieur, mais pas aveugle. Il fait, il me semble, le portrait de cette petite fille debout à côté de moi. Elle a un visage taché, très beau, un masque de pigmentation sous les yeux, couvrant presque entièrement ses joues. Ce masque brun sur sa peau très pâle ressemble aux taches que nous font deviner les psys, à un loup de carnaval qui serait tombé sur ses pommettes. Elle semble gênée. On doit beaucoup se moquer d'elle à l'école. Il me sourit, comme si j'étais complice de ce dessin. Un vol de disgrâce. Nous devons être les seuls à la trouver si belle. Quand la petite fille descend, je m'approche de lui et je m'autorise, puisqu'il m'a souri, à regarder son carnet de croquis. Il n'a pas dessiné le visage de la petite fille, mais le mien. Mon visage quelconque.
Je suis sorti. J'ai tourné à droite dans ma rue et je l'ai vue. Non, pas vraiment elle, pas encore. J'ai d'abord vu des traces de talons dans la neige. Quelle idée. Puis, un peu plus loin, des traces de dérapage. Pas étonnant. La neige griffée et, juste après les griffures, une forme éclatée au sol, suivi de nouvelles traces de talons, bien nettes, comme si rien ne s'était passé. J'ai levé les yeux. Cette femme, haut perchée devant moi, la démarche fière, avait le dos du manteau tout mouillé. Je l'ai rattrapée. Je lui ai demandé si elle ne s'était pas fait mal, si elle voulait que je lui donne le bras.
L'intérieur de la forêt. Elle ne sort presque jamais. Elle est si pâle qu'elle est toujours pour moi celle d'une autre saison.
Tous ces moments où je suis seul mais où je marche vers elle. Tous ces matins où je la rejoindrai dans quelques kilomètres, quelques heures.
Je n'ai jamais su s'il m'aimait vraiment, ou si tout simplement j'avais été la seule. La seule à ne pas être dégoûtée. C'est un homme obèse. Il était presque vierge et tellement isolé quand je l'ai rencontré. Ses rares petites amies, approchées après de longues cours obstinées et passionnées, s'étaient vite découragées à chercher des attributs masculins dans ce corps sans mesure. Son sexe est minuscule. Quelques petits centimètres en érection. Il ne peut rien pénétrer, aucun orifice. À peine une bouche, qu'il ne peut entrer dans personne. À l'inverse, il a cette sensation que tout le monde entre chez lui et le fouille du regard. Il me disait « À cause du lard, je n'ai pas d'intimité. Jamais. Je suis un monstre. » Il était difficile à masturber. Il fallait fourrager dans son ventre, rentrer les mains dans la graisse. Mais j'avais tout mon temps. J'étais attentive, décidée. Je l'aimais. L'aimer me permettait de le toucher et de le regarder longtemps. L'endurance du regard efface les disgrâces. Et la douceur du toucher nettoie les corps de ce qui nous effraie. Son corps n'était plus fait d'amas adipeux, il devenait un paysage. Les plis, à perte de vue et de doigts, cachaient des trésors que personne, avant moi, n'avait eu envie de découvrir. J'avais l'impression de le pénétrer, d'entrer en lui, mais sans effraction. Avec sa permission. Ses souffles, son désir, ses mains dans ma nuque étaient cette permission, donnée sans peur. Il me faisait confiance. J'arrivais à saisir son sexe entre le pouce et l'index. C'était comme cueillir une fleur menue. J'essayais de prendre la tige à sa base, le plus près possible de la terre. De la tâche. Je cueillais son plaisir à la racine. Parfois, il était si détendu, si proche, qu'il s'allongeait, s'ouvrait. J'arrivais alors à mêler ma langue à son sexe, ce sexe qui était aussi une sorte de langue. On se parlait sans mots, entre nos lèvres. Les siennes faites de seins doux, tout autour du pénis, les miennes un peu sèches qui couvraient mes dents, parce que j'avais peur de le blesser. J'aimais un homme qui avait des lèvres autour de la verge, qui avait une langue à la place d'elle. Un homme que personne n'avait jamais eu la patience de faire jouir. Cette patience qui répondait, aussi grande qu'elle, à son attente. Cette attente que je prenais pour de l'amour.
Devant le miroir, elle se regarde sous toutes les coutures. Elle se cherche des imperfections. Elle n'en trouve pas. Elle ressort de la salle d'eau belle et satisfaite. Mais ce qu'il y a juste sous la peau ne se reflète pas. Ce qui est là, en elle, et qui nous empêche de nous aimer, elle ne le verra jamais.
Personne ne voit ce que je vois lorsque je la regarde.
La maladie mentale la rend belle. Belle et folle. Moi qui vis avec lui, je ne suis pas malade. Je ne suis pas belle. Je suis ordinaire. Il me dit qu'elle le fascine et qu'il doit s'occuper d'elle. Il va me quitter pour elle, elle a besoin de lui. Pourtant, moi aussi, j'ai besoin de lui. Mais je n'ai pas cette chance d'être folle. Folle et belle.
Elle et moi, ça n'a pas marché. J'avais toujours une autre femme en tête, pour après. Je pensais rencontrer une autre femme, plus tard. Ou même elle, peut-être, mais en mieux. En mieux parce que plus tard. Comment s'appelle ce sentiment, identique à la nostalgie mais de l'avenir ? Le regret ? L'envie de retrouver ce qu'on n'a pas encore vécu ? Ce moment futur, je le languissais. Et je redoutais aussi, par avance, sa disparition. Je vivais tout par avance. J'attendais et je déplorais la non-encore apparition, la non-venue de toute chose. Et tout ce qui était déjà là, près de moi, me semblait n'avoir aucune importance, ne pas exister. Moi-même, je n'existais que dans l'avenir. Elle était dans le présent. Elle était tellement présente. Maintenant, elle est dans le passé. J'attends son retour.
Je me suis endettée 10 ans dans ses bras, comme entre deux murs.
Il avait l'air heureux avec moi dans le musée. J'aimais le voir comme ça, enthousiaste, joyeux. Ce n'était pas si souvent. Ce jour-là, on aurait dit qu'il l'oubliait enfin, cette fille qui le rendait encore si triste, celle d'avant moi. Celle dont je n'arrivais pas à le consoler. Les photos exposées lui plaisaient, il me les montrait, il me disait « Regarde ». En sortant, il avait acheté une carte postale reproduisant une des photos, la caresse d'une main blanche sur un torse légèrement plus sombre. À l'hôtel, pendant que je dormais à ses côtés, il avait écrit au dos de cette carte, et dès le lendemain, il l'avait envoyée à celle qu'il aimait toujours.
On écrivait notre amour directement sur l'arbre, en gravant dans l'écorce des cœurs traversés de flèches et nos initiales à l'intérieur. C'était loin d'être original. Mais la tendresse de l'écorce, son accueil, je m'en souviendrai toujours. Il est parti dans une grande ville étudier l'ethnologie. Je savais qu'il était inutile de l'attendre. Il rencontrerait des filles plus raffinées, cultivées. Je resterais une paysanne. Bientôt, il aurait honte de moi. Il prétendait ne jamais m'oublier avec de grosses larmes auxquelles je ne croyais pas une seconde. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu, hier, de Russie, une écorce de bouleau, accompagnée d'une lettre dans laquelle j'ai tout de suite reconnu son écriture. Il m'écrit que là-bas, cette écorce, symboliquement associée au renouveau des jeunes filles, constitue de ce fait un support adapté aux lettres d'amour. Et sur l'écorce, il y a une autre lettre. Pour moi.
Le désir d'elle me rendait plus fort, bien plus fort qu'elle.
J'ai tellement envie d'elle parfois que mes jambes tremblent. Comme si je venais de naître d'une biche et que j'essayais de me lever.
Je n'arrive pas à vivre pleinement. Je ne suis pas là, même avec elle. Je suis en veille. Quand elle me tire vers la vie, je me sens contraint, comme un animal réveillé trop tôt d'hibernation par un dérèglement de son horloge interne, un changement brusque et inattendu du climat. Ce dérèglement, ce changement, pour moi, c'est elle. Elle est trop surprenante, trop vivante, trop printanière. Je ne suis pas prêt.
Il me reprochait mon sourire. Je souriais très souvent, c'est vrai. J'étais heureuse d'être avec lui. Il disait qu'à force de si souvent sourire, il restait une sorte de grimace de petite fille niaise sur mon visage.
Nous avions froid dans la forêt. Le brouillard nous tenait serrés l'un contre l'autre. Nous étions pris dans nos propres sons, parce que l'air humide portait les bruits très près. À cause de ce nid sonore nous obligeant à murmurer, j'avais l'impression que nous étions amoureux.
Nous chahutons dans la baignoire. Elle me reproche en riant de mettre de l'eau partout. Mais ce n'est pas le moment de parler. Elle avale le petit morceau de savon que j'ai fait glisser à toute vitesse dans son cou. Après un silence inquiet, elle se remet à rire, en faisant des bulles par la bouche et le nez. Je l'embrasse pour les éclater et partager son rire.
Je me demande si nos voisins, en entendant ces coups qui semblent venir de notre appartement, pensent qu'ils bricolent, même tard dans la nuit. Ou s'ils m'entendent aussi gémir et le supplier d'arrêter.
J'ai cru que je ne me remettrais jamais de notre rupture. Mais la vie, je ne sais pas trop ce que c'est, je crois bien que ça s'appelle la vie. La vie, je ne voulais pas la quitter. Un matin, je me suis levée moins triste et j'ai eu le courage et même l'envie de me regarder dans le miroir. Je savais que j'avais vieilli d'un coup. Je l'avais senti. Je n'ai pas été surprise par les cernes. J'avais tellement pleuré ces dernières semaines. J'ai vu un cheveu briller. Je m'y attendais. J'ai pris une pince à épiler pour essayer de l'isoler et de l'arracher. Je n'avais pas 30 ans. C'était trop tôt, je ne voulais pas de ça, pas encore. Mais il se cachait, puis miroitait à nouveau et s'échappait. Je suis enfin parvenue à le prendre. Il n'était pas blanc, mais doré. Je l'ai observé de près, je l'ai mis à la lumière du jour. Oui, doré. Je me suis regardée à nouveau dans le miroir et j'en ai vu d'autres, scintillant par-ci, par-là. Je m'étais fait des cheveux dorés.
Il est si loin de moi. Il n'est plus qu'une idée dans mes rêves. Il est ce qu'il y a de plus loin.
Je n'y faisais plus attention. J'avais oublié les brûlures, le feu caché qui continue à consumer le fond des arbres, couvent souterrain. Sur terre, il paraissait éteint. J'aurais dû me douter qu'il pouvait renaître en remontant le long des racines, plus loin et plus tard, peut-être même en plein hiver. Les trous formés par les animaux fouisseurs l'ont porté comme des cheminées. Un arbre. Soudain et tout seul, entouré de neige, s'est enflammé. J'aurais pu faire attention à la vapeur s'élevant du sol, mais non, l'apparence était au calme. L'hiver était familier.
et ce feu que je croyais éteint, cette mémoire d'elle, a repris.
En tailleur sur les galets qui côtoient la rivière, puis il sort un bloc de dessin et une trousse de son sac à dos. Je m'installe près de lui, mais pas trop, avec un livre et un chapeau. Il me sourit et se met au travail. On pourrait croire qu'il dessine un cerf, peut-être un arbre. Je n'ose pas lui poser de questions ni m'approcher pour regarder. Il y a des branches dans son geste, mais je ne sais pas si le charbon fabrique des bois de serre ou des bras d'arbre. Bientôt, il a des ramifications à tous les mouvements de ses mains, des ramilles au bout des doigts. Des oiseaux se posent. Je ne sais pas d'où viennent tous ces oiseaux. Des rouges-gorges, des moineaux, des mésanges, des pinsons et même des pies. Des hirondelles. Des mouettes, des oiseaux de vigne et d'herbe, des oiseaux de lac et de ruisseaux, des oiseaux de haute altitude et de mer, des oiseaux de forêt et de clairière, des oiseaux de plus loin encore, des colibris. Ils sont là, près de lui, les ailes au repos, si menus pour certains qu'ils tiennent sur un seul galet, et de galets en galets, il sautille jusqu'à lui. De galets en galets, s'envoler, il s'avance, grimpe sur ses mollets, escalade ses jambes jusqu'aux genoux, explore ses cuisses, ses poignets, ses bras, se pose sur ses épaules, sur sa tête nue, regarde ses croquis. Et chante.
Nous. D'Emmanuel Pagano, enregistré en public à Lyon avec les élèves de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, promotion 74, Quentin Bardou, Vanessa Bill-Audouard, Théophile Dubus, Evelyne Autier, Titouan Huitric, Margot Lemignan, Héloïse Lecointre, Jimmy Marais, Léa Menahem, Mathilde Panis, Nicolas Schmitt, Paul Tronco. Composition sonore, Anthony Capelli, accompagné des élèves en conception sonore, Antoine Briot, Emma Duprat-Guyet, Alexandre Laillé, Chloé Levoix, Jérémy Houry, Lauriane Rambaud. Violoncelle, Emma Duprat-Guyet, conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Jay Zantaous, Bastien Varigaud, Laure-Hélène Planchet. Adaptation et réalisation, Laure Goroff. Nous, d'Emmanuel Pagano, est publié aux éditions POL.